Alors, c'est quoi un réfugié? Qu'est-ce qu'un réfugié? À l'été 2015, juste au moment, hein, de ce qu'on a appelé la grande crise des migrants ou des réfugiés, il y a eu un débat intéressant dans la presse, au moment où Al Jazeera a annoncé qu'il allait arrêter d'utiliser le mot migrant et n'utiliser que le mot réfugié. Donc ce qu'on a vu, c'est à quel point en fait chacun brandissait un mot qui lui permettait de définir la situation d'une certaine manière. Donc, sur un même événement, par exemple un naufrage de 300 personnes en Méditerranée, on pouvait avoir une couverture qui disait 300 réfugiés morts en Méditerranée, ou alors, selon l'orientation politique de l'organe de presse, 300 migrants morts en Méditerranée, ou alors 300 clandestins morts en Méditerranée. Et on voit que ça ne fait pas la même chose. Et on voit surtout qu'il y a une lutte sémantique. Il y a une lutte sémantique parce que derrière les luttes sémantiques, la lutte des mots, il y a une lutte pour imposer une définition spécifique, sa définition de ce que c'est la réalité. Alors, si ce sont des réfugiés, eh bien, alors, c'est très grave ce qui s'est passé, et c'est d'autant plus grave que ça nous met en question, nous, Européens. Si ce sont des migrants, c'est terrible, mais c'est leur choix. Et ils avaient le choix, et ça ne nous met pas en question, nous, Européens, ou beaucoup moins que si c'était des réfugiés. Et si ce sont des clandestins, alors c'est encore moins notre problème. Alors moi, ce que je propose, c'est d'interroger cette distinction réfugiés-migrants, et pas seulement cette distinction, hein, cette idée que ces deux groupes, deux catégories qui sont diamétralement opposées, et qu'il ne faut pas les confondre, surtout pas les confondre, et que c'est de là vient une partie du problème, mais aussi cette hiérarchie qui fait qu'on place les réfugiés au-dessus des migrants. Et pour mener cette réflexion sur la distinction et sur la hiérarchisation entre réfugiés et migrants, ce que je propose, c'est trois grands déplacements. Le premier déplacement, c'est un déplacement par l'histoire. C'est-à-dire que la perspective historique, elle nous permet de prendre de la distance avec les catégories telles qu'on les a incorporées, les débats actuels, et elle nous permet d'interroger cette évidence-là de la distinction entre réfugiés et migrants ou de la hiérarchisation entre ces deux catégories. L'histoire, c'est un instrument très puissant de dénaturalisation parce qu'on voyait à quel point c'était autrement avant, et donc à quel point ça aurait été possible qu'il en soit autrement aujourd'hui, eh bien, on prend de la distance par rapport à l'évidence des distinctions qui nous structurent aujourd'hui. Le deuxième déplacement, c'est un déplacement par rapport à la manière d'analyser qui sont des réfugiés et des migrants. La plupart du temps, quand on essaye de comprendre qui est réfugié et qui est migrant, on se penche sur les parcours des individus, on essaye de regarder leur trajectoire, d'où ils sont venus, pourquoi ils sont partis, et on dissèque leur motivation et leur parcours. Et ce que je propose, moi, au fond, c'est de disséquer les institutions qui les désignent. Donc de déplacer le regard des migrants vers les institutions. Et on se place plutôt dans une perspective, par exemple, qui a été utilisée par Judith Butler dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Ce qui fait une vie ». Ce qui fait une vie, elle s'interroge sur ce qui fait la valeur d'une vie. Ce qui fait que des vies, certaines vies valent plus que d'autres, ou qui fait que on est plus sensible à la mort de certains qu'à la mort de d'autres. La question, c'est qu'est-ce qui fait un réfugié, ce qui fait un réfugié au-delà des personnes, mais pour se tourner vers les institutions qui les nomment. Et pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qui fait que certains sont nommés réfugiés et pas d'autres, hein, que certains sont dotés d'une plus grande valeur que d'autres, eh bien, il faut procéder, il me semble, à un troisième déplacement et prêter une attention à la fois aux inclus et aux exclus. Ceux qui sont inclus comme réfugiés et ceux qui sont exclus de la catégorie de réfugiés. Et donc, quand on regarde un peu la littérature historique, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on passe en revue les différents groupes qui ont été désignés comme réfugiés, à chaque fois, on regarde ceux à qui ont reçu ce label. Et puis, si on regarde la littérature plus contemporaine, qui essaye de comprendre aujourd'hui comment ça se passe, bien souvent, on regarde les exclus pour essayer de comprendre ceux qu'on a rejetés. Et ce que je soutiens, moi, c'est qu'il faut tenir les deux, c'est-à-dire, dans la perspective historique, il faut regarder à la fois ceux qui ont été nommés et ceux qui n'ont pas été nommés réfugiés à un moment donné. Et dans la perspective contemporaine, il ne faut pas seulement regarder ceux qui ne sont pas désignés comme exclus pour essayer de comprendre les institutions, mais justement de comprendre ceux qui sont désignés comme réfugiés pour comprendre aussi les enjeux qui se cachent derrière le fait de nommer quelqu'un réfugié ou non, et pas seulement derrière le fait d'écarter quelqu'un de la définition de réfugié. Alors si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit hein, quand on voit que les définitions ont changé dans le temps, et si on veut bien regarder ces changements, pas comme des nécessités qui sont liées à des situations objectives, mais aux résultats de rapports de force, de positions idéologiques et politiques très situées, et quand on voit qu'une même définition, celle de la Convention de Genève, elle a pu être interprétée de manière complètement différente à certains moments donnés. Quand on fait tout ce travail-là, on voit bien que la distinction réfugié-migrant, et on voit bien que la hiérarchisation qui place les réfugiés au-dessus du migrant, eh bien, se sont déconstruits, et que le réfugié n'a pas de réalité en soi, n'a pas de réalité intrinsèque. Il n'y a pas une nature du réfugié qui serait différente de celle du migrant.